Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Suffit-il de croire que Dieu va rétablir l'ordre et le climat à la fin des temps? On pourrait être tenté de baisser les bras et de laisser faire. Alors pour nous réveiller, je reçois aujourd'hui Corinne Biteau, chargée de mission écologie et justice climatique à l'Église protestante unie de France. Alors bonjour Corinne.
Bonjour Yolande.
Est-ce que vous pouvez d'abord dire un mot sur vous très rapidement pour vous présenter, afin qu'on vous connaisse un peu ?
Oui, je suis agronome de formation initiale, mais également théologienne, et je travaille depuis 3 ans au service écologie et justice climatique de l'Église protestante unie. C'est un travail en réseau principalement, donc je suis insérée dans des réseaux nationaux et européens pour ce travail.
Alors, on va d'abord commencer à présenter le sujet. Qu'est-ce que ça englobe, ce que vous faites finalement dans cette partie écologie et justice climatique?
Alors, ça concerne tout ce qui relève du soin pour la création et des questions liées spécifiquement au climat, puisque les changements climatiques qui sont en cours vont affecter gravement la création, tant les humains que les non-humains, ou plutôt les autres qu'humains, comme dit Philippe Descola.
Et donc, pourquoi l'Église s'intéresse à ça? Est-ce que finalement on parle d'écologie dans la Bible? Tout le monde sait qu'au départ, Dieu dit je vous donne la terre, alors gérez-la et on peut en tirer des fois, faites-en ce que vous voulez. Mais je suppose que vous avez une autre lecture et que vous allez démontrer que tout ça, c'est faux.
Je ne sais pas si je vais le démontrer, mais en tout cas, oui, je le crois. Alors, est-ce que la Bible parle d'écologie? Non, on peut le dire comme ça. C'est un concept qui est anachronique hein, par rapport au texte biblique. C'est une conception tout à fait contemporaine, la question de l'écologie. Mais en revanche, la Bible, elle parle bien de création. Elle parle de création, de créateur et de créature. Et quand elle parle de tout ça, eh bien, il se trouve qu'elle parle de limites mises au pouvoir. Elle parle de justice pour les plus faibles. Elle parle de l'idolâtrie, notamment de l'idolâtrie de l'argent, de l'idolâtrie du pouvoir, justement. Elle parle de responsabilité et elle ne parle pas de domination. Et donc, tout ça, eh bien, ça a des liens très forts avec les causes qu'on connaît de la crise écologique et climatique. Et donc, si la Bible ne parle pas directement d'écologie, elle parle bien de la source des problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui.
Il n'y a pas de prise de conscience du tout de problèmes de protection de la nature dans la Bible?
Alors, ça me semble assez difficile de parler de protection de la nature, encore qu'il y a quand même certains textes qui disent par exemple que quand on trouve un nid, on peut prendre les petits oiseaux, mais on doit laisser aller la mère, par exemple. Il y a cette règle-là qui montre bien qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi et on doit respecter, en l'occurrence, celle qui va pouvoir transmettre à nouveau la vie, même si on a pris sa couvée du moment.
C'est très mignon, ça, comme texte. Je ne connaissais pas du tout. Ça se trouve où ça? Dans Deutéronome, dans les livres un peu qu'on ne lit jamais, c'est ça?
Alors ça, c'est on a le droit de lire le Deutéronome. Ça, c'est la question piège. Je ne sais plus si c'est Lévitique ou Deutéronome.
Oui, d'accord. Les auditeurs qui s'intéressent, ils peuvent chercher, ils trouveront sur Google et ils trouveront ça sans problème. C'était pas une question piège. C'était simplement que c'est effectivement quelque chose d'un peu, dont on ne parle pas beaucoup. Mais enfin, merci d'avoir donné la référence parce que on me l'a jamais donné celle-là. Et alors. Est-ce que le rôle des églises, finalement, c'est ce qu'on entend souvent quand on essaye de parler d'écologie ou même des fois de justice sociale? Il y a des gens qui disent, mais le rôle des églises, c'est pas ça, le rôle des églises, c'est de prêcher la théologie, mais c'est pas, surtout pas de faire de la politique. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que le rôle de l'église, c'est de s'engager sur une question politique comme celle du climat?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle une question politique, parce que si on parle prendre fait et cause pour un parti politique, je pense qu'a priori, sauf dans des cas dramatiques, on va dire, c'est pas le rôle de l'Église. Si on dit politique au sens de dénoncer des propos ou des stratégies de politiciens qui seraient contraires, selon nous, à l'esprit évangélique, alors ça me semble déjà beaucoup plus possible. Mais s'il s'agit, quand on parle de politique, de travailler avec d'autres de façon ouverte, de façon non partisane, pour penser une meilleure organisation de la société, la police en grec, et ben là, on est vraiment dans notre rôle parce que c'est une manière d'annoncer l'Évangile. Et il me semble que, pour revenir aux références bibliques, c'est exactement ce que faisaient les prophètes dans l'Ancien Testament. Ce que nous, on a à dire aujourd'hui, c'est exactement du même ordre, en fait. Et donc, si on se taisait sur ces questions-là, je crois qu'on raterait notre vocation d'Église.
Mais alors, les prophètes ne sont pas toujours bien vus, puisque vous parlez des prophètes, et on ne peut pas dire qu'ils aient toujours été bien acceptés par la société et par les gouvernements. Alors, est-ce que jouer aux prophètes, ce n'est pas un peu dangereux pour une Église?
Si. Il faut le dire, oui, bien sûr, pour les églises et puis pour les gens qui parlent, c'est risqué. Mais je ne crois pas que Jésus ait jamais dit que notre route serait simple et facile. Donc, oui, bien sûr, on peut rencontrer des oppositions, quelquefois des oppositions radicales, même quelquefois violentes, y compris à l'intérieur de l'Église. Il y a quelquefois des noms d'oiseaux qui peuvent voler, en toute fraternité, bien entendu, mais quand même. Et ben oui, il faut se préparer à ça. Ça peut arriver, mais quand on dit quelque chose qui déplace, et ben quelquefois on peut prendre un retour de boomerang.
Mais si on aborde ces problèmes en Église, comment les aborder en restant une Église, c'est-à-dire en étant distinct des groupes écologistes ou politiques? Quel est l'angle en fait que l'Église peut sous lequel l'Église peut intervenir, l'Église ou les Églises peuvent intervenir dans ce débat?
Oui, c'est une très bonne question. D'abord, est-ce qu'on est obligé de dire quelque chose de différent de ce que d'autres peuvent dire si les autres ont raison? Je suis pas sûre. Quelquefois, ça vaut la peine d'abonder pour dire que il est exact qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il est difficile de dire le contraire de la réalité et que les églises prennent position pour dire que oui, les choses ont un sens, que les réalités scientifiques sont pas des opinions. Je crois que les églises peuvent le faire. Donc ça peut éventuellement être un premier axe. Mais il y a aussi évidemment des choses qui sont beaucoup plus spécifiques du discours des églises et qui font que si les églises se taisent, eh bien personne ne pourra le dire à leur place. Et donc on peut pas compter sur les autres pour le dire. C'est pour ça que nous, il faut absolument qu'on le dise. La première des choses, pour moi, c'est que le respect de la création et des créatures, c'est d'abord une question de confiance dans cette parole biblique qui nous dit que Dieu déclare bonne la création et que Dieu aime toute sa création. Et si Dieu aime toute sa création, alors nous, on peut pas faire tout à fait n'importe quoi avec. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à traduire sur le plan du discours, du dialogue avec une société sécularisée, parce que ça repose sur une conviction fondamentale qui n'est pas partageable avec des gens qui ne croient pas que Dieu est créateur. Mais néanmoins, c'est une motivation pour nous, en tout cas, pour nous engager sur cette question-là. Après, il y a une autre thématique qui est peut-être plus facilement partageable ou traduisible avec des guillemets, c'est celle de l'amour du prochain, parce que ça peut se traduire avec des mots du vocabulaire séculier, hein, la solidarité, la fraternité, etc. C'est même dans la devise de la République. Donc, on peut parler de ces choses-là et on peut expliquer que celui que nous appelons prochain dans notre discours religieux, c'est celui qui est notre voisin. Mais peut-être que ça peut aussi être des animaux qui sont des vivants comme nous. Donc là, il y a des choses qu'on peut partager avec la société civile. Et puis, il y a un autre axe sur lequel il est assez facile finalement pour nous de nous positionner, sur lequel nous avons, nous, des motivations, des convictions religieuses sur la question de la justice. Hein, Dieu est juste, Dieu nous appelle à la justice, mais cette notion-là, elle est complètement partageable avec tout le monde. Donc, même si d'autres peuvent dire cela, nous, on peut le dire avec une perspective et une conviction particulière.
Mais justement, vous parlez donc de justice, vous parlez de fraternité, donc ces notions qui peuvent être communes, effectivement, avec une société sécularisée. Mais je reviens sur l'entête de votre groupe, écologie et justice climatique. Qu'est-ce que c'est que la justice climatique? En quoi elle se différencie de la justice sociale? Quelle est sa particularité? Pourquoi on a collé justice climatique après écologie?
Parce qu'en fait, une des fortes motivations qu'on a en tant qu'Église à s'intéresser à cette question, c'est qu'il existe des injustices climatiques. Ce sont des injustices sociales, mais particulièrement liées à la question climatique. Il y a aussi des injustices écologiques, hein. Bon, dans l'intitulé de mon service, on a retenu ces injustices climatiques, mais c'est un cas particulier des injustices environnementales. Et il y a des injustices parce que, en fait, tout le monde n'est pas touché de la même manière par les conséquences de la crise écologique et de la crise climatique. Donc ça, c'est une première injustice. Mais ce qui renforce ça, c'est qu'en général, ceux qui sont les plus touchés, ce sont ceux qui ont les moins été à la source de ces problèmes. En particulier dans les rapports entre pays du Nord et pays du Sud, entre pays riches et pays pauvres, à l'intérieur d'un pays donné entre personnes riches et personnes pauvres. On sait que parce que les émissions de gaz à effet de serre sont très directement liées à la consommation, ben, les gens qui sont plus riches consomment plus. Donc mathématiquement, ils émettent plus de gaz à effet de serre que ceux qui consomment moins et qui sont dans une sobriété subie, pas choisie, mais n'empêche que la réalité est là, ils consomment moins. Ils consomment moins, mais comme ils ont aussi moins de possibilités de se protéger contre les effets, ben, il y a une sorte de double peine de ces catégories de personnes-là. Et voilà pourquoi on dit qu'il y a des injustices climatiques. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil œcuménique des Églises a lancé en juin de l'année 2025 une décennie pour la justice climatique. Voilà, elle fait de, le COE fait de cette thématique-là un thème flambeau pour les 10 années qui viennent. Et je pense que c'est parfaitement bien choisi. C'est vraiment le moment de se concentrer sur ces questions.
Je ne peux pas m'empêcher de penser au Vanuatu, qui est un pays qu'on appelait les Nouvelles Hébrides il y a longtemps, et qui est un pays donc dans le Pacifique, au-delà de la Nouvelle-Calédonie, qui est un pays où il y a très peu de voitures, où il y a très peu de production de gaz à effet de serre, il n'y a pas d'usine, Et je lisais récemment que les puits d'eau douce sont contaminés par l'eau de mer, et je pense à ces gens parce que j'y suis allée, et c'était un pays que j'avais trouvé très touchant. Que vont faire ces gens? Ils vont venir émigrer, et puis on va leur dire qu'en plus, ils ne sont pas bienvenus parce qu'ils viennent piquer le travail des Français. Donc, effectivement, par des exemples concrets comme ça, on se rend compte effectivement de l'injustice. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on reste démunis face à ça. Moi, personnellement, ça me touche énormément, justement, de voir cette injustice. Mais qu'est-ce que je peux faire?
Alors, on peut faire des tas de choses. Je pense que c'est important d'avoir une idée des ordres de grandeur. Et à quelques pouillèmes près, on peut considérer que ce qu'il y a à faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près moitié-moitié de la responsabilité des individus et de la responsabilité des États et des entreprises. Et dans ce qui est la moitié qui concerne les individus, il y a une moitié, donc un quart, qui correspond à des investissements assez importants dans l'isolation de nos logements, dans le choix du mode de transport, etc. Par exemple, hein, tout bêtement, prendre le train plutôt que l'avion, ben quelquefois c'est plus cher de prendre le train que de prendre l'avion, malheureusement. Et puis le dernier quart, c'est des choses que nous pouvons faire sans que ça nous coûte de l'argent. Donc, même si on n'a pas les moyens de faire un certain nombre de choses, on peut déjà jouer sur un quart de nos émissions de gaz à effet de serre, et c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout parce que on a l'habitude de dire que chaque degré compte, donc chaque geste compte en réalité pour le climat. Donc déjà, il y a plein de choses qu'on peut faire soi pour avoir une vie plus sobre, pour faire attention à l'impact qu'on a. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire sur un levier très important, qui est celui de peser sur les entreprises qui continue à émettre des gaz à effet de serre de façon très importante. Et comment on peut faire ça? Alors, si on a la chance d'investir dans des entreprises, parce qu'on a un petit peu de capital et qu'on a placé ses économies, il est extrêmement important choisir des entreprises qui n'ont pas ce type d'action néfaste sur le climat. Et donc, de veiller à désinvestir de tout ce qui est lié aux énergies fossiles en particulier, parce que c'est le premier des leviers. Et puis, même si on n'a pas de capital à investir, on peut interroger sa banque pour les sommes qui transitent habituellement sur notre compte et demander à notre banque si elle investit. Parce que, en fait, les émissions de gaz à effet de serre des banques, des clients des banques françaises représentent au total plus que les émissions de gaz à effet de serre de toute la France. Donc là, il y a un vrai levier. C'est extrêmement important d'interroger notre banque, de lui envoyer un courrier, de dire voilà, je me préoccupe de ces questions. Qu'est-ce que vous faites, vous, du point de vue du financement des activités autour des énergies fossiles? Donc ça nous coûte un courrier, un mail à notre banque, et ça a de l'effet. Parce que quand les banques reçoivent des centaines et des milliers de courriers qui vont dans ce sens, elles se disent ah, vu qu'il y a un certain nombre de banques qui se positionnent en disant nous ne finançons pas ça, nous risquons de perdre nos clients. Et ça les fait bouger. Donc ça, c'est très important. Il y a une autre chose sur laquelle on peut jouer, c'est nos achats. Moi, j'ai coutume de dire que dans pouvoir d'achat, il n'y a pas que achat, il y a pouvoir aussi. Et on a un pouvoir véritablement quand on achète ou qu'on n'achète pas un certain nombre de choses. Parce que finalement, les entreprises, bah, elles vendent ce qu'on leur achète. Et donc, individuellement, on a l'impression que ça ne fait pas grand-chose, mais on peut faire des mouvements collectifs en n'achetant plus des choses dont on pense que les entreprises qui les vendent ne sont pas respectueuses du climat. Et puis, il y a une dernière chose qu'on peut faire, alors qu'elle qui coûte rien du tout, mais qui, à mon avis, est très importante, c'est de prier. Parce que prier, c'est une action aussi. Dans la prière, on va trouver des ressources spirituelles pour les changements nécessaires dans nos vies, et ce ne sera pas du luxe parce que ces changements-là, ils sont absolument énormes.
Cette histoire de campagne auprès des banques, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça ne coûte rien. Et effectivement, comme il y a du greenwashing, comme on dit, que tout le monde se dit très vertueux et que en fait, d'après la presse, eh ben c'est pas aussi simple que ça. Et ces entreprises ne sont pas aussi vertueuses que ça. Ça me semble être une très bonne idée. Vous faites des campagnes là-dessus en église ou est-ce que comment ça sort? Parce que c'est la première fois que j'entends qu'il y a cette possibilité.
Oui, nous, on relaye les campagnes du Conseil œcuménique des Églises sur ce sujet. Et on a en préparation des éléments concrets qu'on va mettre à la disposition de chacun sur le site de l'Église protestante unie de France, dans les pages consacrées à l'écologie et à la justice climatique. Parce que ça nous semble vraiment très, très important. Ces outils existent, ils sont disponibles en français. Il y a tout un tas de consortiums qui produisent des choses. On travaille en particulier en partenariat avec un mouvement qui a été lancé par des jeunes catholiques, qui est un mouvement qui est ouvert à tous les chrétiens, mais qui a été lancé dans la mouvance des pères jésuites en particulier, qui s'appelle Lutte et Contemplation. Et ils sont très engagés sur cette question, ils produisent des outils, ils font des campagnes, donc on relaye ces campagnes et on mettra à disposition tous les outils dans une page spécifique.
Oui, ben merci. Vous avez parlé donc la moitié d'actions individuelles et puis la moitié de collectifs, de politiques qui viennent de… Mais je prends l'exemple de la voiture électrique. Il se trouve qu'il y a quelques années, on en parlait beaucoup et que ça rentrait dans les possibilités. Et c'est là où on voit que finalement, la moitié de l'individuel est en fait d'une certaine façon… pervertie par le collectif ou par simplement parce que Stellantis ou tel autre constructeur de voitures préfère continuer dans le fossile. Alors, c'est extrêmement compliqué de. Parce que les modes, finalement, ça revient un peu à ça. C'est-à-dire qu'il y a des modes, tout d'un coup, tel type de choses a le vent en poupe, et puis ça reflue. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs.
C'est une question très difficile que vous posez là, parce que c'est la question de la transition, en fait. Mmh. Comment on passe d'un modèle à un autre? Alors, la voiture électrique, elle a l'énorme avantage de produire à peu près deux fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture classique. Pourquoi seulement deux fois moins, on pourrait dire? Parce qu'effectivement, quand elle roule, en France, on a une électricité qui est décarbonée, mais c'est pas vrai partout. Mais en France, on a une électricité décarbonée, donc l'utilisation de la voiture va être, on va dire, low carbone, mais sa production, la production de cette voiture-là, elle consomme énormément de gaz à effet de serre, beaucoup plus que la production d'une voiture thermique. C'est peut-être pour ces raisons-là que les constructeurs s'interrogent. Donc, ça permet de réduire néanmoins de moitié notre impact carbone. Alors, on peut regarder ça de deux manières différentes. On peut se dire, c'est toujours ça de prix. Et c'est pas faux. Il y a un moment où il y a des urgences. Et donc, l'urgence, c'est de réduire les consommations de gaz à effet de serre. Mais dans la durée, c'est pas non plus une vraie solution, parce que ça ne réduit que, entre guillemets, de moitié. Donc, il en reste quand même encore beaucoup, parce que les déplacements, c'est la majeure partie de nos émissions individuelles de gaz à effet de serre. Et puis, ça déplace, en fait, le problème lié à la ressource fossile du pétrole vers la question de la ressource en terres rares et tout un tas de choses dont on a besoin pour faire les batteries. Et là, c'est pas des problèmes de gaz à effet de serre, mais c'est d'autres types de problématiques environnementales aussi. Voyez. Et donc, du coup, c'est pas une panacée, c'est un mieux, la voiture électrique, c'est un mieux pour l'instant. Mais c'est pas une panacée et c'est probablement pas quelque chose dont on peut se dire tout ira bien, nous allons avoir les voitures électriques et on n'a plus besoin de s'occuper de la question de nos déplacements. Et le risque, c'est qu'en se disant on a une voiture électrique, on roule gratuitement, on se leurre. On roule pas gratuitement quand on roule avec une voiture électrique du point de vue de l'environnement. Ça c'est vraiment un leurre. Et donc il faut pas que ça nous exonère d'une réflexion sur la logique de nos déplacements. Et cette réflexion-là, elle est compliquée parce que il n'y a pas de solution universelle. C'est très facile pour moi qui, depuis ma fenêtre, vois la ligne de RER de ne pas avoir de voiture. Parce que j'ai 25 magasins à pied à moins de 10 minutes autour de chez moi et que pour aller travailler, je pique un sprint pour attraper le métro et je suis au boulot en 25 minutes au cœur de Paris. Quand on habite à la campagne, c'est pas tout à fait la même histoire. Et donc, il va falloir trouver des solutions qui soient adaptées aux différentes réalités. Mais on peut pas se dire c'est impossible, parce que on n'a pas le choix. Il faut qu'on change quelque chose. Il y a quand même bien eu des périodes dans l'histoire de l'humanité où on n'avait pas de voiture. Alors, comment on faisait? Et comment on fait pour que demain on puisse retrouver un système qui nous permette de conserver des relations humaines? Parce que ça, c'est extrêmement important. On peut pas se dire, on reste chez soi, puis on va tout faire en visio. Donc, il faut pouvoir conserver des relations humaines, mais en même temps, il faut bien qu'on arrête d'avoir cet effet dévastateur sur la planète.
On a compris que ça allait pas être simple parce que y a toute cette transition à faire. Parce qu'effectivement, moi, j'habite en campagne. Soit je reste chez moi, soit si je vais en ville, c'est Montpellier. Pour avoir un docteur, c'est Montpellier. C'est 60 kilomètres parce que même des médecins, il y en a pas autour. Et puis, c'est de pire en pire. Donc, effectivement, la transition va être difficile. Alors, très rapidement, est-ce que ça va être… quel est le degré de difficulté auquel on peut s'attendre et combien de temps va prendre cette transition, finalement, si on peut, si on peut chiffrer?
Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va être trop long. on a déjà… dépasser un certain nombre de seuils, on le sait, et donc il y a aujourd'hui rien de plus urgent que de s'occuper de ces questions. Vraiment, il n'y a rien de plus urgent. Il y a peu de gens qui en ont conscience, y compris dans l'Église. Et pour vous donner une idée de ce que ça va représenter comme difficulté, Jean-Marc Jancovici a fait le calcul. Il dit la puissance que nous avons aujourd'hui à notre disposition quand nous vivons en France grâce aux énergies fossiles, c'est l'équivalent de 600 esclaves par personne. Voilà. Nous devons apprendre à nous passer de 600 esclaves par personne. Un couple, 1200 esclaves. Vous imaginez tout le travail que peuvent faire 1200 esclaves. Donc, ça, c'est le premier problème. À quelle puissance nous allons devoir renoncer? Et je vous renvoie à nouveau au prophète de l'Ancien Testament. La question de la puissance, de l'idolâtrie de la puissance, on la retrouve là. Comment on fait pour renoncer à cette puissance-là? C'est là où je vous disais tout à l'heure, la prière, ça va être super important. Ça va aussi être très difficile pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure à propos du Vanuatu. C'est qu'il y a des zones entières de la planète qui, parce que la température et l'humidité vont devenir trop importantes, vont devoir migrer. Parce que tout simplement, ça va devenir inhabitable, pas seulement irrespirable, mais intranspirable, en fait. Et donc, on va mourir de chaud dans des zones entières. Et donc, ces gens-là, eh bien, il va bien falloir qu'ils bougent. Et donc, il va falloir qu'on accueille des déplacés. Et comme vous le savez, c'est pas trop la tendance spontanée d'accueillir avec joie et reconnaissance la richesse que nous apportent les personnes déplacées. Et pourtant, il va bien falloir qu'on le fasse. Parce que si on les accueille pas avec le sourire, ils vont débarquer chez nous avec des pelles et des fusils. Et ça, c'est inévitable. Et donc, il faut qu'on apprenne à partager ce qu'on aura encore quand on sera dans cette situation difficile avec ceux qui, eux, n'auront plus rien du tout. Et qu'on se dise que ce qu'on a, c'est déjà plus. Et que donc, on doit aussi apprendre à le partager. Évidemment, ça va vraiment pas être facile. Et pour qu'on arrive à le faire, je crois qu'on a impérativement besoin d'un nouvel imaginaire. Ça, c'est la première chose. Et aussi, d'apprendre à nous soutenir les uns les autres, à être dans la solidarité.
Eh bien, merci Corinne Biteau. On arrive à la fin, on aurait beaucoup de choses à dire encore. Alors, je voudrais juste signaler que à FM+, donc sur notre radio, nous avons 3 émissions sur l'écologie. Nous avons « Vertes et pas mûres », « Entre souffle et humus » et « Où vivons-nous ?». Les deux premières sont axées sur le rapport entre le christianisme, le protestantisme en particulier, et l'écologie. La deuxième est une émission complètement séculière. Voilà, alors je remercie Corinne et puis je remercie nos auditeurs à qui je dis à bientôt. Au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.